Mikkel Sebastian.
Oh, Mikkel Sebastian.
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde. Nous sommes le jeudi 27 février. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la situation diplomatique avec l'Algérie qui se corse toujours plus. Un retour sur la mort de Rémi Fraisse en 2014 avec un rapport de la Cour européenne des droits de l'homme qui condamne la France pour manquement grave. Et puis un petit tour chez les fous aux États-Unis avec un petit... petit panachage des pires trucs qui arrivent depuis l'administration Trump. De quoi je vais vous parler encore? De la fin de C8 aussi. C'était le soir et ça fait un peu du bien des fois. Et il y a quelques autres bonnes nouvelles aussi. Restez branchés. Un petit peu de Sheikha Rimiti pour commencer cet article trouvé dans les colonnes de Mediapart qui fait un petit peu le point sur la situation tendue avec les autorités algériennes et notamment la manière dont François Bayrou eh bien justement gère ce dossier. Le Premier ministre a tenté hier d'élever le ton face à l'Algérie, qu'il accuse de ne pas respecter ses engagements internationaux et de placer la relation bilatérale dans une situation inacceptable qui ne peut plus durer. Un peuple a le droit d'exiger que la loi soit respectée. Tiens, c'est assez rigolo dans la bouche de François Bayrou. En tout cas, c'était donc envers donc les autorités algériennes qui l'intimaient le respect de la loi et non pas par rapport à toutes les casseroles qui arrivent de plus en plus à son cul. Voilà. En tout cas, tout ça, ça a été dit au terme d'un comité interministériel de contrôle de l'immigration qui était largement consacré donc aux fameuses relations franco-algériennes. Cette instance a été réactivée puisqu'elle existe depuis 2005. Elle a été donc réactivée vu la situation prévue depuis 3 semaines et donc prenait une importance particulière vu les tensions diplomatiques entre Paris et Alger qui ont repris en intensité après l'attentat de Mulhouse ce 22 février puisque la France accuse l'Algérie d'avoir refusé à 14 reprises l'expulsion de l'individu interpellé et ce malgré une OQTF, une obligation de quitter le territoire français qu'elle lui avait délivrée. Au sein de l'exécutif, la tenue de cette réunion, donc le comité interministériel de contrôle de l'immigration devient donc indispensable et des divergences éclatent de plus en plus à l'intérieur entre notamment Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui lui est partisan de sanctions fermes envers Alger, ou Jean-Noël Barrot, en charge des affaires étrangères, qui lui poussait plutôt l'option diplomatique et une reprise à bas bruit des échanges avec l'Algérie. C'est donc finalement le troisième acteur qui a fini par faire pencher la balance et l'arbitrage du Premier ministre, à savoir le lobbying de la droite et de l'extrême droite qui sont plutôt en faveur d'un bras de fer et des mesures de rétorsion. Quelques heures avant cette réunion qui a eu lieu à Matignon, les médias du groupe Bolloré, à savoir CNews, Europe 1 et le JDD, journal du dimanche, publiaient d'ailleurs de façon simultanée les résultats d'un sondage qui, justement, affirmait-il, montrait le soutien massif de l'opinion à l'idée d'une suspension totale des visas pour les ressortissants algériens. La crise a pris des proportions inédites pour des raisons de politique intérieure, explique Adlène Mohamedi, un chercheur en géopolitique qui enseigne à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Il est spécialiste des relations internationales dans le monde arabe. Pour lui, la classe politique française utilise des mots qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre dans l'histoire récente des deux pays. C'est comme si on offrait les Algériens sur un plateau aux électeurs de droite et d'extrême droite. Au centre de ces discussions, les accords de 68, dont justement la droite et le bloc central sont devenus, et l'extrême droite sont devenus partisans de la dénonciation. Donc ça a occupé une partie importante dans l'intervention de François Bayrou. Il juge que l'Algérie ne respecte plus ses accords de 68 et que donc ces textes donnent des avantages considérables aux ressortissants algériens, alors que du côté d'Alger, on considère à l'inverse, d'ailleurs comme d'autres sources diplomatiques françaises interrogées par Mediapart, que cet accord est en effet plutôt une coquille vide aujourd'hui. D'ailleurs, ils ressortent les propos de Gérald Darmanin, qui avait critiqué la focalisation sur cet accord de 68. Et Gérald Darmanin, on le sait, est plutôt partisan de la fermeté avec Alger. C'était le 13 janvier sur LCI. Il a dit que l'accord de 68 est devenu un peu obsolète, mais et que ça n'est pas le nœud principal du problème. C'est une guerre déjà passée. Donc les propos de celui qui était alors ministre de l'Intérieur. Et donc Bayrou, en la matière, lui, par rapport à toutes ses positions, il a fait du Bayrou, en décidant de lancer un audit interministériel de la politique de délivrance des visas, qui ouvre un délai entre un mois et six semaines pour réexaminer les accords français franco-algériens. Donc voilà, on s'y met tout de suite, mais pour dans plus tard. Et donc au terme de ce délai, si la situation ne s'améliore pas, parce qu'a priori le dialogue va reprendre, le gouvernement français considérera que les termes sont remis en cause et au bout du chemin, que ce sont donc les accords qui seront remis en cause. Jean-Noël Barrot, donc à l'extérieur, a aussi révélé mardi que des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens avaient été prises. Et il a ajouté hier qu'elle datait d'il y a quelques semaines, donc même avant l'attentat. La crise couvait déjà sous la braise. Ces mesures concernent quelques centaines de personnes, a précisé François Bayrou. Et quant au président de la République, vous savez, Emmanuel Macron, là-dessus, on ne l'entend pas du tout. Emmanuel Macron reste muet. D'ailleurs, beaucoup d'acteurs aimeraient qu'il prenne position. La politique intérieure française, ce n'est pas CNews ou un ministre qui doit la faire. A lancé par exemple le sénateur socialiste Rachid Temal, qui fait partie, il est président du groupe d'amitié France-Algérie au palais du Luxembourg au Sénat. Il en appelle au président de la République pour qu'il fasse revenir tout le monde à la raison. Ce sont ses mots. Le président doit prendre la parole, remettre la relation bilatérale dans le sillage des accords d'Alger. Il semble en effet que du côté de la présidence, on soit plutôt accaparé par le dossier ukrainien. Et la cellule diplomatique du palais vit en plus de tout ça au rythme des péripéties internes et des départs. En effet, il avait claqué la porte Emmanuel Bonne, le sherpa du président, finalement va rester, contrairement à la conseillère chargée de la communication internationale, Anastasia Colosimo, qui devrait faire ses cartons dans les prochaines semaines. Donc effectivement, il n'y a plus grand monde visiblement à la barre du côté de l'Élysée.
Alors, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomasse.
La Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, condamne aujourd'hui la France pour l'opération de maintien de l'ordre qui a été menée en 2014 autour du chantier du barrage de Sivens et menée par la gendarmerie, ce qui avait provoqué la mort du jeune Rémi Fraisse au cours des affrontements donc dans la soirée suite à des tentatives d'opposition aux travaux de ce barrage de Sivens. La Cour européenne des droits de l'homme donc estime que le niveau de protection requis pour parer aux risques posés par le recours à une force potentiellement meurtrière n'a pas été garanti et elle souligne les lacunes du cadre juridique et administratif alors applicable ainsi que les défaillances de l'encadrement dans la préparation et la conduite des opérations litigieuses. Selon un décompte officiel qui avait été cité par Mediapart, la gendarmerie avait cette nuit-là, tiré plus de 700 grenades en tout genre, dont 42 offensives au cours de la nuit de l'affrontement, encouragées par sa hiérarchie. Il aura fallu donc plus de 10 ans et l'appui de la Cour européenne des droits de l'homme pour que la responsabilité de l'État français dans la mort de Rémi Fraisse soit enfin reconnue. Que de temps perdu, réagissait auprès de l'AFP Patrick Spinozzi, l'avocat du père justement de la victime, Jean-Pierre Fraisse. Le recours inapproprié à la force lors des manifestations contre le barrage de Sivens est désormais acquis. Pour éviter de nouvelles condamnations, la France doit maintenant tirer toutes les conséquences de cette décision et revoir en profondeur sa politique de maintien de l'ordre, a-t-il ajouté. La Cour européenne des droits de l'homme, dans son rapport, avait également été invitée à se prononcer sur un deuxième aspect, à savoir justement si, à part à la nuit de l'affrontement, la suite, l'enquête pénale, est-ce qu'elle avait été bien approfondie, indépendante et impartiale. Et là-dessus, la Cour européenne des droits de l'homme salue le travail fait en France. Elle juge que la procédure prise dans son ensemble n'est entachée d'aucun manquement sur ces domaines Et elle relève par ailleurs que des modifications ont été mises en place depuis face aux lacunes législatives et réglementaires d'organisation et opérationnelles aussi qui avaient été relevées au cours de l'enquête. À l'époque, pourtant, ces lacunes, qui sont bien spécifiées, n'avaient pourtant pas été considérées comme suffisantes et constituant des infractions pénales. C'est pourquoi aucun procès pénal n'a été organisé à l'issue de l'enquête des juges d'instruction, qui s'était quand même soldée par un non-lieu. Cette décision avait d'ailleurs été confirmée en appel, puis en cassation, ce qui avait provoqué une colère et une grande frustration chez les proches et les parents de Rémi Fraisse. Claire Dujardin, l'avocate d'ailleurs de plusieurs membres de la famille, confiait ceci quelques jours avant la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, que cela n'arrive jamais quand quelqu'un meurt, normalement, il y a un procès. Rémi Fraisse, je le rappelle, avait été tué par l'explosion d'une grenade offensive, des grenades de désencerclement, lancée par un gendarme au cours d'affrontements avec des militants écologistes. Enfin, les militants écologistes voulaient enfoncer un grillage pour se rendre sur le lieu du chantier et les policiers essayaient de les empêcher. Si on est un peu plus précis sur ce qu'étaient ces affrontements, et je crois que la grenade s'était accrochée dans le pull du jeune homme, elle avait donc explosé proche de son cou. C'était dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014. Ce jeune botaniste de 21 ans était foncièrement pacifiste, selon ses proches. Il était d'ailleurs éloigné de toute activité militante et assurait bénévolement pour France Nature Environnement le suivi d'une plante, la renoncule à feuilles d'Ophioglosse, une espèce végétale protégée et présente donc sur le site, ce qui, espérait-il, pourrait empêcher la construction du barrage. On reste justement dans la thématique avec cette actualité, toujours du côté de la 69, l'autoroute Toulouse-Castres, sur le dossier duquel le tribunal administratif de Toulouse doit se prononcer dans la journée. Ils sont actuellement en train d'en discuter. Des activistes occupent à nouveau des arbres menacés. Les écureuils sont donc de retour. Donc on est à peut-être aujourd'hui à un verdict historique qui serait susceptible d'acter la fin du projet d'autoroute entre Toulouse et Castres. Des écureuils ont donc signé leur grand retour, puisque dans la nuit du 22 au 23 février de la semaine dernière, deux militants anti-A69 ont escaladé les branches de deux arbres menacés d'abattage. C'est la première fois depuis le 7 octobre dernier et l'expulsion de le dernier bastion de résistance sur le chantier, qui s'appelait la ZAD du Verger. Cette nouvelle occupation d'arbres donc intervient suite à une récente découverte. C'est le collectif La Voie est libre qui l'explique. Tout au long du tracé de l'autoroute, des centaines d'arbres ont été marqués ces derniers jours par le concessionnaire en vue d'être abattus avant le 31 mars. Or, explique le collectif, jamais ces troncs n'auraient dû être badigeonnés de peinture. Le 10 septembre, en effet, dans un communiqué, la préfecture du Tarn assurait qu'il n'y avait plus aucun arbre à couper dans le département. Doit-on s'habituer à ces mensonges d'État ou y a-t-il encore un espace pour s'indigner de ces atteintes continuelles à la probité ? Questionne le collectif La Voix est libre. Hors de question, donc, préviennent les militants, un appel à soutenir les écureuils, à repérer et à défendre d'autres arbres menacés a été diffusé sur les réseaux sociaux jusqu'à l'annulation probable de l'autorisation environnementale ce 27 février. Une décision très attendue qui n'est toujours pas sortie, alors que la rapporteure publique, donc missionnée par le tribunal administratif, a demandé plusieurs fois l'annulation du projet, avec le rapport qui juge les gains espérés pour cette future autoroute insuffisants par rapport aux atteintes à l'environnement qu'elle produit. Donc, à moins que le tribunal ne décide de reporter sa décision à plus tard, de ne se prononcer que partiellement ou de s'en remettre au Conseil d'État, aujourd'hui, deux possibilités s'offrent à lui, soit annuler l'arrêté, soit ne pas l'annuler, cet arrêté préfectoral, ce qui pourrait soit engendrer l'arrêt immédiat du chantier, soit à l'inverse, la poursuite normale des travaux de l'autoroute, dont l'ouverture était initialement prévue pour la fin de cette année 2025. Si le tribunal administratif stoppait le chantier, ça serait une grande première, l'État et le concessionnaire Atosca pourraient malgré tout faire appel, mais dans l'attente, les travaux en tout cas seraient suspendus. Et à l'inverse, dans l'hypothèse d'une décision favorable à l'État et au concessionnaire Atosca, le chantier de l'autoroute se poursuivrait au moins jusqu'à une décision en appel des opposants, ce qui pourrait prendre plusieurs mois. Et dans ce cas-là, explique un militant, on prendra acte que la justice n'applique pas le droit, donc le droit environnemental en l'occurrence, et qu'il va falloir se débrouiller autrement. C'est un militant du collectif La Voix est libre qui l'explique, mais dit-il, dans tous les cas, la lutte continuera.
Des nouvelles du monde.
Allez, je vous emmène aux États-Unis d'Amérique avec tout d'abord des nouvelles de cet organisme, le DOGE, le bureau tenu par Elon Musk qui est chargé de faire des coupes et de réaliser des économies dans l'administration fédérale américaine. Il vient de se voir humilié, camouflé sur les réseaux sociaux, hein, puisque c'est là que maintenant tout se passe, par une vérification brutale des faits, le fameux fact-checking. Et en effet, cela revient sur de fausses déclarations d'économies qui auraient été réalisées par ce fameux Doge. En effet, sur le site Doge, dont je vous avais déjà expliqué qu'il était très facilement piratable et qu'il relayait avant tout, principalement, les tweets de cette équipe sur le réseau social X, qui appartient à Elon Musk, son équipe a supprimé énormément d'éléments clés de son mur. C'est le mur où ils affichent justement tout le travail qu'ils font, puisque des journalistes ont tout simplement été vérifiés leurs vantardises selon lesquelles ils avaient permis d'économiser des milliards de dollars grâce aux coupes dans les programmes fédéraux. Alors ils ont révélé des grosses erreurs bâclées de comptabilité et des mensonges purs et simples. Et ce retour donc de bâton a lieu peu de temps après une réprimande cinglante d'un juge fédéral pour ne pas s'être conformé à une ordonnance qui autorise la poursuite du financement, le tout dans l'embarras de devoir en plus licencier des employés fédéraux de manière complètement arbitraire et sans considération pour la nécessité de leur rôle, voire même certains de ces gens qui ont été virés appartenaient à des bureaux plutôt favorables à Trump. Et donc il y a un peu de l'eau dans le gaz entre Trump et Musk sur la méthode à maintenir pour continuer à couper à la tronçonneuse tout cet argent. Donc, en tout cas, sur le site du Doge, des milliards étaient censés être économisés. Suite à fact-checking de journalistes, ils ont réussi à chiffrer ça à plutôt 8 millions de dollars à la place des 8 milliards. Ça fait quand même 1000 fois moins. Et à titre de comparaison, le coût par toute cette purge, hein, puisqu'il y a quand même des gens qui travaillent, c'est environ 7 millions de dollars par semaine. Donc voilà, c'est pas fifou. En tout cas, Elon Musk, suite à ça, a donc officiellement publiquement menti quant aux économies réalisées par la purge des institutions américaines. Quelques autres pépites de la semaine du côté des États-Unis. Bon, évidemment, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, hein, puisque la stratégie, c'est quand même principalement d'arroser le monde de dinguerie, pendant que certainement de vrais dossiers avancent, peut-être notamment du côté de l'Ukraine. Mais quand même, petit florilège des Trumperies et autres musqueries de la semaine. Alors Trump a proposé une gold card qui coûterait 5 millions de dollars et qui permettrait de devenir citoyen américain, en particulier pour les oligarques russes. Le président a également nommé à la tête du FBI Kash Patel. Je vous parlais la semaine dernière ou ce mardi justement du chef du FBI par intérim qui avait refusé de livrer les noms de supprimer et de répondre aux mails de Elon Musk la semaine dernière. Bon, ça y est, il n'est plus à son poste. Et à la place, c'est Kash Patel qui a été nommé. Kash Patel, c'est un podcasteur d'extrême droite, conspirationniste, anti-vax, hein, un soutien farouche de Donald Trump, évidemment, très contesté par les démocrates, notamment pour sa défense des émeutiers du Capitole ou le soutien qu'il a exprimé par le passé à la mouvance complotiste d'extrême droite Canon avec un Q au début, qui était justement très lié aussi aux assauts du Capitole. Au Texas, les Républicains viennent d'introduire un amendement qui permet de modifier le système des votes aux élections, une manière d'empêcher indirectement les femmes mariées de pouvoir voter, puisque celles-ci devront se soumettre à l'autorité de leur mari avant d'aller voter. Donald Trump met fin aux fonctions du chef d'état-major de son armée et de plusieurs autres hauts responsables des forces armées, une vraie purge là-dedans. Ceux-ci vont tous être remplacés par des fidèles du président. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, avait par exemple déclaré qu'il fallait purger tout haut responsable militaire associé à une politique woke de merde, pro-diversité, égalité et inclusion. Concrètement, les Noirs déjà, hop, ça dégage, objectif que plutôt que des blancs au pouvoir stratégique, prêts à suivre les ordres de leur chef suprême. Un ordre exécutif exige par ailleurs que tous les étudiants, donc dans les universités, suppriment leurs pronoms dans leur profil, sous peine d'être suspendus de leurs études académiques. En d'autres termes, ce sont les minorités sexuelles LGBT+, qui sont visées, notamment les trans, et les mêmes trans sont d'ailleurs désormais interdites de rejoindre l'armée américaine. En même temps, quelle drôle d'idée. Ceci implique donc que l'armée américaine devra observer, juger et lister la sexualité de chaque individu. Enfin, Trump a tenu un discours lors d'une conférence qui viserait à modifier la Constitution de manière à lui permettre de garder le pouvoir après les 4 ans de présidence. Il souhaite évidemment rester là, à voir si tout ça aboutit quelque part. Hein. Je vous le dis, c'est peut-être tout simplement que de la fumée rose partout. Et il a publié, alors là c'est le pompon, sur son compte officiel, il a relayé en fait une vidéo qui a été créée par Intelligence Artificielle, une vidéo complètement délirante qui s'appelle Gaza 2025, Trump Gaza Number One, on entend ça. La musique c'est de l'IA, les images c'est de l'IA. Vous pouvez y voir des statues de Donald Trump en or massif, un peu à la manière des grands dictateurs que pourtant il fustige. Elon Musk qui danse sous une pluie de billets. Trump et Netanyahou, sympa, sirotant un cocktail en maillot de bain, donc dans ce qui est une bande de Gaza idéale, reconstituée. Et Gaza, donc reconstruite en zone balnéaire pour super riches. On y voit d'ailleurs aussi assez bizarrement Trump au milieu de femmes à barbe en train de faire la danse du ventre. Voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait tout regardé comme il faut. Et un petit bonus pour là-dessus, Jeff Bezos, le patron milliardaire d'Amazon, hein, et fervent aussi partisan de Donald Trump, a pris le contrôle du Washington Post, fameux journal, et il a déclaré publiquement que le média devrait désormais uniquement diffuser un narratif complaisant avec le libéralisme. Libéralisme, comme on l'appelle nous, hein, le capitalisme sans entrave, puisque aux États-Unis, liberal, c'est plutôt une insulte pour les gauchistes, qu'il considère évidemment comme l'idéologie supérieure. Et qu'est-ce qu'on va faire pour clore on va parler de Tesla, tiens, pour clore ce petit chapitre américain. Avec l'incroyable chute en bourse de Tesla en quelques semaines seulement, plus de 500 milliards de dollars partis en fumée. Elle repasse ainsi sous la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation financière. Le groupe Tesla pâtit d'une énorme chute de ses ventes en Europe, qui est en partie liée justement à l'image dégradée d'Elon Musk, qui multiplie des prises de position politiques de plus en plus extrêmes. Le groupe américain a donc encore dévissé en bourse après l'annonce ce mardi des ventes justement de véhicules en chute libre en Europe. La firme automobile a vu sa capitalisation fondre de plus du tiers en l'espace de 3 mois. Elle est passée de 1 540 milliards de dollars en mi-décembre à environ 950 milliards ce mercredi 26 février. Ça reste quand même une des entreprises des mieux cotées en bourse, hein, puisqu'ils sont quand même largement au-dessus de leurs concurrents. C'est même Tesla, c'est presque plus une valeur boursière que vraiment une fabrique d'automobiles, puisque leur voiture, notamment le Cybertruck, subit beaucoup de moqueries, parce qu'il n'a pas l'air d'être très très efficace en tant que 4x4. À titre de comparaison, donc vu que j'imagine que ça fait longtemps que vous n'avez pas suivi le cours de la bourse, voilà quelques chiffres de ses concurrents sur le marché de l'automobile mondial. Toyota en bourse, c'est environ presque 300 milliards de dollars, donc on est quand même 3 fois moins que Tesla. Et Volkswagen, juste 56 milliards de dollars. General Motors, ce groupe américain, lui, tourne autour des 49 milliards de dollars. Donc on reste bien au-dessus malgré tout, mais quand même un tiers de perte en 2 semaines, là, c'est pas mal. Autre ordre de grandeur, si vous voulez voir la perte, Tesla a perdu en quelques jours l'équivalent de la capitalisation boursière de grands groupes américains, comme par exemple Netflix, qui est environ 426 milliards de dollars. C'est un peu comme s'il avait perdu Netflix comme ça en 2 semaines. Un plongeon donc presque aussi rapide que la montée en flèche de l'action Tesla, puisque c'est ça aussi, c'est le contre-coup de la montée qui a eu lieu à partir du 6 novembre dernier, date de l'élection américaine. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les actifs de Elon Musk dans la foulée, eux aussi, ont perdu à peu près dans les mêmes proportions. Et j'avais un son qui devait partir. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai perdu. Ah non, il est là.
L'air pur, l'eau pure et une terre saine. De ces 3 choses, nous n'avons plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
On termine, on va parler médias avec C8 qui disparaît de la TNT et une cinquantaine de militants étaient justement devant les locaux de Canal Factory où est enregistrée la célèbre émission Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna aux manettes. Ils étaient devant les studios de l'émission pour célébrer justement la fin de cette époque. Une cinquantaine d'activistes climatiques notamment ont manifesté hier soir devant les studios pour fêter en fanfare l'arrêt de Touche pas à mon poste, alors que donc la chaîne C8 qui diffuse va s'éteindre à minuit ce vendredi en raison du non-renouvellement de sa fréquence par l'ARCOM. L'ARCOM, c'est le régulateur de l'audiovisuel et c'est une décision inédite. Ça arrive assez peu. Le rassemblement a été lui revendiqué par le collectif Action Justice Climat. Et il explique, un porte-parole de l'association expliquait sur Instagram, nous étions présents devant l'ARCOM en juillet pour demander le non-revoulement de C8 et de CNews. Nous célébrons donc cette première victoire d'étape avec la fin de C8 sur la TNT. Pendant l'émission donc, qui avait lieu à ce moment-là, Cyril Hanouna a réagi en direct, avec pas très très inspiré sur la répartie. Il a dit « S'ils veulent faire une action sur le climat, vous pouvez leur dire qu'il n'y a pas de soleil ici, qu'ils aillent faire pousser du maïs chez eux ». Voilà, donc un petit peu vert quand même de ce que des gens se réjouissent de sa disparition. Cyril Hanouna est derrière lui, ses soutiens ne décollèrent pas en effet depuis l'annonce de la fermeture de la chaîne. Il a accusé le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, d'avoir monté un dossier contre C8 à l'insu du président. Ce lundi sur Europe 1, qui est également un média appartenant à Bolloré, où il est quotidiennement de 16h à 18h, il a demandé un sondage sur la suppression de l'ARCOM. Étaient notamment, par exemple, des scientifiques en rébellion, hein, l'ONG scientifique en rébellion, avec cette jeune Gaïa, qui explique que l'arrêt imminent de C8, cette chaîne regardée à chaque jour par 9 millions de téléspectateurs, est une énorme victoire d'étape face à la propagande mortifère de Hanouna et de Bolloré. Les médias de ce groupe ont un rôle énorme dans la percée historique de l'extrême droite et dans la diffusion d'idées climato-sceptiques. Et elle qualifie d'ailleurs Bolloré de carbo-fasciste. Cette décision de l'ARCOM est donc un vrai soulagement et prouve que la pression des associations et de la société civile permet encore de défendre un peu la démocratie, ajoute-t-elle. Et elle rappelle au passage les nombreuses alertes et sanctions infligées à la chaîne par le régulateur de l'audiovisuel, à savoir 36 depuis 2012, dans ce décompte qui a été fait par Libération. Et justement, le pont est fait avec l'autre côté de l'Atlantique, hein, on le voit avec Donald Trump et Elon Musk aux États-Unis. Si l'extrême droite a tant de pouvoir, c'est parce qu'elle est soutenue et financée par des milliardaires. Or, même si l'Empire Bolloré a perdu cette semaine un morceau de sa façade, il n'en reste pas moins tentaculaire. Et oui, car l'industriel breton, qui a bâti notamment sa fortune sur ses activités logistiques et extractivistes en Afrique et en Asie, est le propriétaire du groupe Canal+, du groupe Prisma Media, où on retrouve Géo, Ça m'intéresse, Voici, Capital, mais également d'Europe 1 ou du journal du dimanche. Et d'ailleurs, la militante termine en apportant son soutien à l'intersyndicale du groupe Canal+, qui est vent debout contre le plan social annoncé par la direction au mois de décembre, à savoir 250 postes supprimés, dont 150 liés à C8, et 100 autres additionnels. En février, les syndicats parlaient finalement de 212 suppressions de postes, sans donner plus de détails sur leur répartition. Voilà la petite ambiance festive devant les studios de Touche pas à mon poste, c'était hier soir. On se quitte là-dessus et en fanfare, c'est l'occasion aussi de vous rappeler que Carnaval arrive ce Mardi Gras et qu'une invitation est lancée par le Carnaval des Gueux de Montpellier qui vous invite comme chaque année à déambuler dans les artères du centre-ville jusqu'à ce que le jour se lève, Inch'Allah. Le cortège partira à 19h, donc des jardins du Pérou, et ça a lieu depuis 1995, c'est donc une fête traditionnelle qui n'a besoin ni d'autorisation. Ni d'encadrement, devenu une véritable tradition, rendez-vous annuel des associations anarchistes et révolutionnaires, elle réanime la ville avec ses chars, ses fanfares, ses pétards et autres joyeusetés. Donc comme d'habitude, le cortège partira du Pérou et arpentera les rues de la vieille ville jusqu'à ce qu'en mort s'en suive. Alors venez vivre un Mardi Gras convivial dans l'ivresse collective. C'est un petit article que j'ai trouvé sur le métropolitain Montpellier chez vous, je crois, un truc comme ça. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et puis à très vite sur les ondes de Radio Escapade. Je serai pas là Mardi Gras prochain du coup. Ciao, ciao.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.